Jésus, c'est la relation qu'il a eue avec ses disciples et le projet qu'il a eu aussi pour eux. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus et ses disciples. Cela rejoint, cela prolonge un petit peu la prédication de dimanche dernier, puisque dimanche dernier, nous avons parlé de l'appel de deux disciples. Je vous invite à lire en introduction à notre réflexion deux textes dans l'évangile de Luc. Le premier, donc, c'est dans Luc, chapitre 6, à partir du verset 12. Luc 6, à partir du verset 12. En ces jours-là, nous dit Luc, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, à qui il donna aussi le nom d'apôtre, c'est-à-dire envoyé. Simon, à qui il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, celui qu'on appelle le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Et puis, un deuxième texte se trouve dans l'évangile de Luc aussi, au chapitre 9, nous lisons à partir du verset 57. Luc 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Il lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va-t'en annoncer le règne de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Jusqu'ici donc nos lectures introductives. Jésus a choisi d'exercer sa mission en étant entouré de disciples qui l'ont accompagné, qui l'ont suivi tout au long de son ministère. Et Jésus a aussi pris la peine de les former par tout ce qu'ils vivaient, par tout ce qu'ils partageaient ensemble. Et c'est une scène assez typique des évangiles, finalement, que de voir Jésus marcher avec ses disciples à ses côtés, de voir Jésus associer ses disciples à ce qu'il fait, de le voir Jésus enseigner, les enseigner, discuter avec eux en privé, après avoir parlé aux foules, leur confier certaines missions. Jésus donc est apparu très clairement comme un maître, un rabbi, dont le but n'était pas simplement de parler aux foules, au plus grand nombre, mais aussi de former ceux qui le suivaient et se mettaient à son école. Et du coup, quand on lit les évangiles, une expression comme « suivre Jésus » devient une sorte de résumé de la vocation chrétienne. À quoi nous sentons-nous appelés lorsque nous lisons les évangiles, que nous voyons ces réalités-là? C'est nous aussi, dans notre vie, dans notre contexte, à suivre Jésus. Le verbe « suivre » d'ailleurs se trouve plus de 75 fois dans les quatre évangiles, le mot « disciple » plus de 230 fois. Ça veut dire vraiment que le thème est très très présent dans les évangiles. Et souvent, il est bien présent aussi dans la pensée chrétienne. Un fait surprend pourtant, et j'aimerais juste tout de suite attirer l'attention là-dessus, quand on regarde l'ensemble du Nouveau Testament. Ce qui est frappant, c'est de voir que ce thème qui est si présent dans les évangiles est totalement absent des épîtres du Nouveau Testament. Paul ne demande jamais de suivre Jésus. Il n'appelle pas non plus les chrétiens des disciples. Vous cherchez chez Paul, vous ne trouverez rien de cela. Lorsque Paul parle de la vie chrétienne, il parle d'avoir foi en Jésus, il parle de l'obéissance de la foi, il parle de marcher selon l'Esprit, il parle de revêtir l'homme nouveau, mais il ne parle pas de suivre Jésus ni d'être un disciple. Et certains se sont demandé finalement si le fait de cette image des disciples qui suivent Jésus, si c'est présenté ou si ce n'est pas présenté comme un modèle. Est-ce que c'est simplement une question de rapporter ce qui s'est passé et qui avait une valeur pour ce temps-là, ou est-ce que c'est vraiment un modèle pour notre vie? Et certains sont allés jusqu'à dire, en effet, c'est quelque chose du passé. Le fait que Paul n'en parle pas, que Pierre en parle à peine, dans un seul texte il en parle, que ce soit finalement quelque chose qui ne nous concerne plus, et que parler de Jésus et de ses disciples, c'est parler un petit peu au passé. C'est aller vite en besogne que de tirer cette conclusion. C'est vrai que Paul, dans ses lettres, ne donne pas comme modèle de conduite chrétienne la vie de Jésus et de ses disciples, et qu'il décrit plutôt la vie nouvelle comme l'œuvre du Saint-Esprit. La raison, à mon sens, c'est que Paul n'a jamais voulu sortir de son rôle. Paul n'avait pas connu le Christ au temps de son ministère terrestre. Et il n'a pas essayé de faire comme si. Il a donc plutôt développé une vision de la vie chrétienne qui découle du sens de l'œuvre de Christ et du rôle de l'Esprit. Et c'est ainsi que Paul a développé un enseignement sur la vie chrétienne qui se fonde finalement sur des principes de vie à mettre en œuvre sans avoir forcément à se baser sur l'exemple de Jésus ou des apôtres. Mais ça ne veut pas dire, cette orientation-là de Paul ne veut pas dire que ce que nous rapportent les évangiles sur les disciples ne soit que de l'histoire passée et ne concerne plus notre vie. Et la première raison qui nous permet de dire qu'il y a encore une actualité à cela, c'est le fait que le livre des Actes, lui, reprend régulièrement le thème de disciples pour désigner les chrétiens. Et le livre des Actes concerne la vie de l'Église. Donc Luc, dans les Actes, appelle les chrétiens des disciples. Et donc il affirme la continuité entre ce qu'ont vécu les disciples de Jésus dans son ministère et ce que nous sommes appelés à vivre dans le cadre de l'Église en tant que chrétiens. Une deuxième raison est de remarquer qu'en fait, plusieurs évangiles ont été écrits après certaines lettres de Paul. Donc c'est faux de schématiser les choses en disant qu'il y a eu d'abord le temps où on parle de disciples, puis le reste du Nouveau Testament où on n'en parle plus. La réalité est un peu plus compliquée ou un peu plus nuancée. Il y a eu d'abord le temps du ministère de Jésus, où Jésus a formé des disciples. Il y a eu ensuite, en effet, un temps où on n'a pas forcément beaucoup parlé de ce thème du discipulat dans les églises, hein, les églises que Paul fondait, on n'en a pas forcément beaucoup parlé. Puis est venu un temps où le thème est revenu au premier plan, mais c'est avec la rédaction des évangiles. Lorsque les évangiles ont été rédigés, c'est ce qui a remis justement le thème du discipulat, de suivre Jésus au premier plan. Et je crois qu'il faut voir les choses dans cette ligne-là. Et je pense aussi que Paul, très certainement, n'a pas trop parlé du disciple du Christ, justement parce que les évangiles n'étaient pas encore pleinement rédigés. Il y avait des traditions orales sur ce que Jésus avait fait. Il y avait des paroles isolées qui étaient recueillies, des ébauches de résumés de la vie de Jésus, mais on n'avait pas vraiment ce que l'on a maintenant avec les évangiles. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Paul a cherché d'autres sources pour parler de la vie chrétienne. Donc le résultat, c'est que finalement, pour nous, il y a deux sources d'inspiration pour notre conduite chrétienne. Il y a les principes de vie nouvelle, tels que Paul les décrit, et il y a l'illustration concrète que nous donne la vie de Jésus et la façon dont il a formé ses disciples. Et les deux se complètent. L'objectif, il faut le noter, est le même. Lorsque Paul parle de l'œuvre de l'Esprit et de son œuvre à lui en tant qu'enseignant, il dit « Ce que je désire, c'est que Christ soit formé en vous. Christ formé en vous. » Galates 4, verset 19. Et l'exemple de Jésus montre le processus pour que Christ puisse être formé en nous. Et donc c'est ainsi que les deux se complètent entre les évangiles d'un côté et Paul de l'autre. Donc je proposerai ces deux aspects à notre réflexion, suivre les évangiles, mais aussi ne pas oublier que cela nous concerne encore aujourd'hui avec cette signification permanente du thème. Alors quelques mots maintenant sur l'arrière-plan On voit Jésus avec ses disciples. Quel était l'arrière-plan de Jésus sur cette question-là? Dans le monde juif, comme dans le monde grec et romain, il était assez courant qu'une personne influente regroupe autour d'elle des personnes qui adhèrent à sa cause et à son enseignement ou à ses croyances. C'était vrai lorsqu'il concerne des gens qui avaient une influence philosophique, des gens qui avaient une influence politique, le pouvoir, et ceux qui avaient aussi une influence religieuse. Et donc, cette relation entre quelqu'un qui avait des choses à dire, des choses à montrer, et d'autres qui le suivaient, elle était assez fréquente, et on avait l'habitude d'appeler les gens qui suivaient cette personne d'influence des disciples. On employait en fait le terme avec trois nuances. Un disciple pouvait être considéré comme un apprenti, si vous voulez, ou un élève, c'est un premier sens du mot, apprenti ou un élève, et ça c'est l'idée vraiment qu'on est à l'école de ce maître qu'on a choisi. Il pouvait aussi être considéré, deuxièmement, comme un adhérent. L'idée quand on dit un disciple comme adhérent, c'est plutôt l'idée qu'on donne son adhésion à une personne. C'est un deuxième sens du terme. Et puis certains aussi appelaient quelqu'un un disciple pour dire, voilà, c'est simplement quelqu'un qui est membre d'une école particulière. Et c'est un peu plus le côté institutionnel. Donc ça existait, Jésus n'innove pas. Au temps de Jésus, et en Judée, beaucoup d'enseignants religieux, dès qu'ils avaient un certain renom, avaient autour d'eux un cercle de disciples. Et ces disciples vraiment s'imprégnaient de l'enseignement du maître, et en retour, il pourvoyait à ses besoins. Le rabbi enseignait ses disciples dans une maison qui lui servait d'école. Il lui arrivait de se déplacer, et quand il se déplaçait en itinérance, en fait, ses disciples marchaient à une certaine distance derrière lui, pour marquer que c'était lui le maître. Et d'où l'expression « suivre quelqu'un ». Il y avait cette idée qui était très très concrète. Et c'est ainsi qu'on parle des disciples des pharisiens, par exemple, dans les évangiles. Paul, lui aussi, qui a été instruit au pied de Gamaliel, a suivi ce modèle d'un disciple qui a été à l'école d'un rabbi. Jésus, donc, entre dans ce modèle qui était courant, et c'est pourquoi, assez naturellement, quand on vient à lui, il y a des gens qui l'appellent rabbi, maître, parce qu'on le reconnaît comme tel. Lorsque Nicodème vient vers lui, il dit « Rabbi, on sait que tu as un enseignement qui vient de Dieu. » On invite aussi Jésus, du coup, à se prononcer sur les questions qui étaient débattues entre les différents rabbis, différentes écoles. Parler sur le sabbat, parler sur le divorce, parler sur le lavement des mains. Il y avait là des débats entre différents rabbis et on demande à Jésus de se positionner là-dessus. Donc Jésus apparaît d'une certaine façon comme le maître d'une école rabbinique. Sa base est à Capernaum, dans ce qu'on appelle la maison. C'est assez intéressant de lire que quand Jésus est à Capernaum, on dit qu'il est dans la maison. Pas dans une maison, dans la maison. Et c'était certainement la maison de Pierre, et c'est certainement là qu'il avait sa base, et c'est là qu'il avait en quelque sorte son école. Vous savez que les maisons avaient souvent des cours intérieurs qui permettaient de se rassembler assez facilement à un certain nombre. Donc voilà, si vous voulez, la façon dont Jésus est apparu. Jésus est entré dans un modèle existant. Mais en même temps, Jésus a dépassé et changé ce modèle. Et c'est ici qu'il faut dire une ou deux choses. Une première différence, c'est que contrairement aux rabbis traditionnels de son époque, dans le cas de Jésus, c'est lui qui appelle, c'est lui qui choisit ses disciples. Nous l'avons lu dans Luc 6, que Jésus, après avoir prié, a ramené ses disciples et a choisi certains. Or, dans les pratiques habituelles, c'était l'inverse. C'était les gens les disciples qui choisissaient leur maître. On connaissait quelqu'un qui avait une certaine influence. Tiens, voilà quelqu'un qui est intéressant pour moi. Et du coup, le disciple choisissait son maître. Restait auprès de ce maître un certain temps, et puis quand il estimait qu'il pouvait bénéficier de l'apport d'un autre maître, il choisissait éventuellement un autre maître. C'est comme ça que un autre rabbi, c'est comme ça que ça se passait. Avec Jésus, c'est l'inverse. C'est lui qui appelle, c'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui fixe les conditions. Et il se pose vraiment dans la relation comme le Seigneur auquel il faudra répondre dans un engagement total et entier à son égard. Et Jésus rappellera cette différence à ses disciples. Il leur dira dans Jean chapitre 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et il continuera en disant, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Cela montre aussi dans quel sens il faut comprendre cette initiative. C'est Jésus qui fixe les objectifs. C'est lui qui détermine ce qu'il faudra faire, ce qu'il faudra devenir. Et Jésus, donc, en formulant son appel, devient le maître qui détermine toute la vie de son disciple, et pas seulement le maître vers lequel on vient pour recevoir un peu de connaissances, un peu plus d'enseignement et de savoir. C'est parce qu'on le reconnaît, lui, en tant qu'envoyé de Dieu, qu'on lui donne une pleine adhésion. J'ai dit aussi juste tout à l'heure que les disciples des différents rabbis changeaient de maître selon ce qui leur convenait. Avec Jésus, il en va tout différemment. Vous avez remarqué le texte que nous avons lu tout à l'heure, où des gens se proposent pour venir. Jésus se dépêche de bien marquer les exigences qui sont les siennes, avec des conditions très très élevées, très très claires. Et parmi ces conditions, il faudra partager la vie exigeante de Jésus. Et Jésus dit, j'ai pas toujours un endroit où je peux poser ma tête, donc il faut le savoir. Il faudra aussi que cet appel ait priorité sur toute autre relation. Hein, et même celui qui dit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père ou ma mère. Mon père, Jésus dit, laisse les morts ensevelir les morts. Hein, et toi, viens et suis-moi. Probablement ensevelir mon père, c'est pas que son père venait de décéder, hein. C'est-à-dire, peut-être le père était âgé, j'attends qu'il soit décédé pour pouvoir te suivre. Mais pour l'instant, je m'occuperai encore de lui. Et puis, il y a cette troisième exigence où Jésus dit, si on met la main à la charrue et on regarde en arrière, on n'est pas propre au royaume de Dieu. Et ce qui veut dire que là, l'idée de changer de disciple, de changer de maître, est quelque chose que Jésus, ici, n'accepte pas non plus. Dans sa perspective. Donc Jésus a des exigences très très claires, beaucoup plus fortes que ce qu'aucun rabbi n'a demandé. En fait, le seul parallèle d'un appel aussi fort que celui que Jésus adresse, c'est l'appel que Dieu adresse à quelqu'un lorsqu'il le choisit à son service. D'ailleurs, le texte avec les trois personnages qui viennent et que nous avons lu tout à l'heure, ce texte rappelle d'une certaine façon l'appel d'Élisée par Élie. Élisée avait demandé aussi à Élie s'il pouvait dire au revoir à sa famille, etc. Et Jésus parle aussi de charrue ici dans ce texte, avec la main à la charrue. Lorsqu'Élisée a été appelé par Élie, il était en train de labourer justement, et après il a utilisé sa charrue pour faire un sacrifice à Dieu. Donc d'une certaine façon, ce texte évoque aussi l'appel d'Élisée par Élie. Et ça montre vraiment que l'appel de Jésus est dans cet ordre-là. Et lorsque Dieu appelait quelqu'un à son service, c'était vraiment de la même façon que Jésus le fait. Dieu fixe la mission, Dieu détermine les conditions, et c'est ainsi qu'il faut avancer. Donc, lorsque Jésus appelle à être disciple, il agit avec la même autorité que le Seigneur lorsque le Seigneur appelle à le servir. Et je crois que c'est ça ce qui explique vraiment la nature particulière de cet appel de Jésus. Un point par contre est à relever quand même. Jésus prend l'initiative et fixe les conditions, mais Jésus demande aussi le consentement des personnes. Il ne passe pas sur le consentement des personnes. Il ne force pas. Il invite même à calculer la dépense. Il dit, si tu veux bâtir une tour, calcule la dépense. Et Jésus n'a pas hésité à mettre les exigences et à dire, tu choisis en toute connaissance de cause. Et ça montre un Jésus qui, d'une part, n'est jamais manipulateur ou séducteur d'aucune façon, et un Jésus qui veut aussi que ses disciples le servent et soient ses disciples de manière volontaire, que la décision soit la leur, qu'elle puisse être vraiment assumée. Une deuxième différence par rapport au modèle des rabbis est que Jésus n'appelle pas ses disciples à une vie d'études pour leur permettre à leur tour de devenir un jour des rabbis, des enseignants. Ce n'est pas tout à fait cela la perspective de Jésus. Aucun disciple de Jésus n'a jamais rêvé de devenir un autre Jésus ou de prendre une place semblable à la sienne. Jésus, ils le perçoivent trop bien. Jésus est l'unique. Il annonce, il manifeste la présence du règne de Dieu. Et donc, les disciples, leur place, c'est d'être vraiment, de se joindre à lui dans sa mission et non pas simplement de recevoir quelque chose qui leur permettra à eux aussi d'avoir ensuite leur rôle propre. Les disciples, donc, qui sont avec Jésus, se savent partie prenante de quelque chose de grand. Mais en même temps, ils découvrent que seul Jésus est à la hauteur de l'œuvre à accomplir. Souvent, leurs limites se révèlent. Lorsqu'il faut chasser un démon, par exemple, ils sont seuls alors que Jésus est sur la montagne. Ils n'y arrivent pas. Lorsque Jésus leur demandera à un moment donné, donner à manger à cette foule qui est là, ils se retrouveront complètement impuissants, disant, on ne peut rien faire, c'est au-delà de notre portée. Jésus seul est à la hauteur de cette mission dans laquelle les disciples sont partie prenante. Et puis cette mission dans laquelle ils entrent a aussi quelque chose d'un peu déconcertant pour eux. Ils la rêvaient d'une certaine façon tout en grandeur, qui sont du royaume de Dieu, etc. Et Jésus à plusieurs reprises leur parle du rejet qu'il devra subir lui. Et dans la foulée, il leur annonce que la vie d'un disciple signifie aussi parfois de se préparer au rejet des autres et à connaître bien des épreuves. Le serviteur, dit Jésus, n'est pas plus grand que son maître. Et lorsque, à plusieurs reprises, les ambitions personnelles des disciples s'affirment, Jésus leur rappelle que sa mission à lui était juste à l'inverse d'ambition personnelle. Et ses valeurs aussi étaient différentes. Il faut donc aussi inverser les choses. Car, dit-il, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Donc la mission de Jésus, ses valeurs, le chemin par lequel il passera, tout cela forme un cadre dans lequel les disciples de Jésus doivent entrer. Et si c'est un privilège que d'être auprès de Jésus, c'est aussi une immense exigence, car cela implique tout un travail de formation, de transformation personnelle. Alors j'aimerais juste à ce stade de notre parcours nous donner l'une ou l'autre piste à méditer, parce que nous aussi, si nous voulons entrer dans la vie que Jésus nous propose, nous sommes appelés à être disciples de Jésus-Christ. Et je propose quand même que nous laissions retentir un petit peu cette phrase de Jésus. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Si nous sommes nous aussi à Jésus et si nous sommes ses disciples, c'est bien de laisser retentir la question « Mais Seigneur, pourquoi moi ? C'est toi qui m'as choisi, pourquoi m'as-tu choisi ?» Je crois qu'il y a un étonnement à découvrir, à redécouvrir autour de cette question. Mais après l'étonnement, il doit y avoir aussi place pour la mise à disposition. Seigneur, c'est toi qui m'as choisi pour que je puisse être ton disciple, mais que veux-tu de moi? Que veux-tu m'apprendre? À quoi veux-tu me former? En quoi veux-tu me transformer? Que voudrais-tu que je développe pour toi? Quelle part veux-tu que je prenne dans ta mission? Eh bien, de penser aussi à ces choses-là en termes de mise à disposition. Une autre réflexion pourrait tourner autour de l'idée de persévérance, au fait d'être entier dans notre engagement et pas, de ne pas être partagé comme celui qui met la main à la charrue et qui regarde un petit peu en arrière en même temps. Faisons le point sur nous-mêmes par rapport à cela. Où en suis-je aujourd'hui dans ma persévérance, dans ma constance? Est-ce que je tiens? Est-ce que je progresse? Est-ce que je régresse? Une dernière piste pourrait concerner l'attachement entier à Jésus. Le Seigneur n'a pas voulu des disciples qui l'essayent juste pendant un temps et qui ensuite vont essayer quelqu'un d'autre, un autre rabbi et un autre encore après. Et cela nous pose un petit peu la question, quel est notre attachement à Jésus? Est-ce que nous sommes, tout en suivant Jésus d'une certaine manière, en train d'essayer aussi 1000 recettes de vie un petit peu partout? Ou est-ce que nous sommes fidèles dans notre attachement? Juste quelques questions qui, un petit peu manifestent, me semble-t-il, pour nous l'actualité de ces choses qui sont clairement affirmées sur la relation de Jésus en tant que maître avec ses disciples. Deuxième grand volet, après avoir vu ce que Jésus faisait dans son arrière-plan, quelques mots sur le recrutement des disciples. Si on considère au fil des évangiles les gens qui suivaient Jésus, en fait, on discerne deux catégories. Il y avait d'un côté les foules et de l'autre côté les disciples. Les disciples, ce sont ceux qui ont obéi à Jésus, qui ont obéi à l'appel de Jésus à le suivre. Les foules, elles aussi, d'une certaine façon, suivent Jésus. Matthieu nous le dit, les foules le suivaient. Matthieu 4, verset 25. Mais en fait, la façon dont les foules suivent Jésus est un peu différente. Elles sont là physiquement. Elles le suivent parce qu'elles sont curieuses de ce qui se passe, curieuses de Jésus, curieuses de ce que Jésus va faire, etc. Mais il n'y a pas d'engagement personnel envers Jésus. Et c'est assez remarquable de voir que Jésus ne s'est jamais laissé griser par les foules ou par le succès du nombre. Son objectif, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le suivent parce qu'ils étaient curieux de lui, mais c'est qu'on le suive par le cœur et par l'engagement. Et c'est ainsi qu'on voit à plusieurs reprises Jésus invité à cet engagement et inviter les foules à devenir des disciples. C'est un peu ça son invitation. Et il le fait avec cœur, avec chaleur, mais aussi de manière assez claire. Je voudrais juste lire un texte qui est assez typique et qui parle beaucoup. Matthieu 11, versets 28 à 30. Voilà ce que dit Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et on voit ici Jésus qui appelle vraiment avec cœur à venir à lui. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais en même temps, Jésus souligne que ce repos, comment est-ce qu'on le trouve ? C'est aussi si on reçoit son instruction, puisqu'il dit « recevez mes instructions ». On voit ici que Jésus se présente vraiment comme un maître qui veut vraiment nous diriger, qui veut vraiment nous instruire, nous conduire. Et puis, il y a cette image qui est un peu surprenante. Jésus invite les foules à venir trouver du repos en recevant ses instructions et il dit « prenez mon joug sur vous ». Ça, c'est très surprenant. Le joug, c'était cette pièce de bois qu'on mettait sur les bœufs, sur la nuque des bœufs lorsqu'ils travaillaient. Alors, prenez mon joug pour recevoir du repos. Qu'en est-il ? Si Jésus dit « prenez mon joug sur vous », il rappelle déjà que c'est sur le lieu du travail que les disciples vont apprendre, pas juste sur les bancs de l'école. Mais la particularité d'un joug, et je crois que c'est ça, il faut bien comprendre l'image. La particularité d'un joug, c'est qu'il n'était jamais porté par un seul, mais il était toujours porté par deux. Quand on pense à cette image, quand tu dis « prenez mon joug sur vous », nous qui n'y connaissons pas grand-chose, on voit souvent un bœuf avec son joug et Jésus qui dit « je te mets encore ça là-dessus et c'est comme ça que tu vas avancer, je te guide ». Ce n'est pas cela. L'image du joug, c'était toujours pour atteler ensemble deux bœufs, pour qu'ils puissent faire le travail ensemble. Et lorsque Jésus dit « prenez mon joug sur vous », il ne veut donc pas accabler ceux qui souffrent d'un poids supplémentaire, ce n'est pas ça ce qu'il propose. Mais il dit « je veux qu'on se mette ensemble et qu'on répartisse la charge sur deux, et je viens à tes côtés pour porter la charge avec toi ». Il se propose comme portant avec nous cette charge. Donc Jésus ici est très réaliste, il ne se présente pas comme celui qui va supprimer les difficultés de la vie, il parle d'un joug en effet, mais il dit, je veux vraiment être à tes côtés, prends mon joug, je serai avec toi, et on va ensemble faire face à ces difficultés. Et la proposition du joug est la proposition d'une présence, d'un soutien. Ça veut dire aussi la fin de la solitude pour celui qui doit porter des choses. Il sait qu'il a quelqu'un à ses côtés. Ce qui veut dire aussi qu'apprendre à être disciple dans cette perspective, ce sera apprendre à rythmer son pas, par exemple, sur celui de Jésus, apprendre à doser son effort en rapport avec l'effort de l'autre, apprendre aussi à marcher dans le même sens. Hein, c'est toute cette idée d'être ensemble pour avancer, pour porter les choses. Il y a là une certaine exigence, mais il y a aussi une grâce. Et c'est une grâce magnifique de penser que Jésus, lui aussi, sait s'adapter finalement à notre propre pas, ralentir quand il nous sent faiblir pour qu'on puisse avancer ensemble, mais en tout cas jamais se délier. Donc Jésus, en appelant les foules à devenir disciples, propose en même temps une vraie présence, une vraie solidarité. Mais il ne cache pas qu'il y aura un prix à payer, un travail, un effort à fournir, et parfois que ce prix peut être lourd. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix pour me suivre. Renoncer à soi-même, ce n'est plus faire de soi, de ses propres intérêts, notre priorité, mais donner priorité au Christ. Et cela peut conduire parfois à subir l'opprobre, l'opprobre des autres, la condamnation, comme les condamnés qui étaient chargés de leur croix et qu'il était parfois en public. Mais là aussi, c'est ne pas le faire seul, on suit le Seigneur qui nous précède sur le chemin. Donc Jésus a voulu appeler les foules à devenir disciples. Si on pense maintenant à qui étaient les disciples, il faut juste se rappeler qu'il y a plusieurs cercles de disciples. Il a existé plusieurs cercles de disciples. Le cercle celui que l'on connaît le mieux, c'est les 12 que Jésus a choisis à un moment ou un autre, à un moment donné, pour qu'ils soient avec lui. Et à qui il a donné le nom d'apôtre, c'est-à-dire le titre d'envoyé. Ils sont en quelque sorte ces chargés de mission. Le chiffre 12 pour les 12 apôtres rappelle les 12 tribus d'Israël. Les 12 apôtres forment donc la base du peuple de la Nouvelle Alliance. Et ce sont eux en particulier que Jésus forme en vue de la suite de son œuvre. Mais ce qu'il faut juste noter, c'est que les 12 sont choisis au milieu d'un cercle plus large de disciples. Luc le suggère assez clairement dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, du choix des 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, il passa la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. Donc c'est l'idée que Jésus appelle, invite un nombre plus grand de gens qui le suivent, et qui le suivent de cœur, qu'il appelle ses disciples, et c'est au milieu de cela que le Seigneur en prend 12. On voit d'ailleurs un peu plus tard, Jésus envoyer 72 disciples en mission dans tout Israël. Il les invite par équipe à partir, à se disséminer de partout. Il y a eu certainement plusieurs missions de ce genre. Une première avec les 12 apôtres, dont Matthieu nous fait mention dans Matthieu 10, et une autre avec les 72 où Jésus utilise les ressources des autres disciples qui étaient les siens. Et cela nous est rapporté en Luc chapitre 10. Il y avait donc un cercle plus large que les 12. Jean, dans son évangile, mentionne aussi ce cercle plus large. Mais il le mentionne à l'occasion d'une crise dans ce cercle plus large. C'est dans Jean chapitre 6, après la multiplication des pains. Et on est à la période de Pâques, l'avant-dernière Pâques de Jésus, donc un an avant sa mort. Jésus a prononcé un discours où il se présentait comme le pain descendu du ciel et où il insistait sur la nécessité de manger sa chair et boire son sang. Alors c'est un langage figuré pour dire il faut vraiment croire en Jésus en s'appropriant vraiment ce qu'il allait faire pour nous. Mais beaucoup de gens, nous dit l'apôtre, beaucoup de personnes ont trouvé cette parole très dure. Et Jean 6, verset 60, dit plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. » Jésus donc dit aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» C'est là que Simon-Pierre lui répond, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru
et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Donc voilà qu'il y avait un cercle plus large de disciples et dont certains ici se découragent par rapport à cette parole de Jésus. Et les 12 qui, adoptant cette belle confession de Pierre, restent fidèles. Il faut aussi mentionner dans les cercles qui accompagnaient Jésus, le groupe des femmes qui ont accompagné Jésus et ses disciples dans tous leurs déplacements. Et Luc les présente aussi, chapitre 8, versets 1 à 3. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alors cela existait à l'époque de Jésus, des femmes qui éventuellement soutenaient un rabbi et ses disciples. Mais ce qui est unique ici, c'est que les femmes font vraiment partie du groupe. Elles marchent, elles se déplacent avec eux. Elles sont vraiment décrites aussi d'une certaine façon comme ses disciples. Hein. Elles sont avec lui comme les 12. Hein. Donc elles sont associées vraiment au cercle des disciples. Et c'est quand même assez étonnant pour l'époque, avec des règles très très strictes sur les rapports hommes-femmes. Il y a là des femmes qui vivent, et dans l'itinérance, hein, aux côtés d'un prédicateur célibataire, au milieu de disciples masculins. C'est un défi quand même lancé à la culture juive, et pourtant elles sont là, et Jésus aussi a fonctionné de cette façon-là. Je pense qu'il a voulu aussi bien montrer que le royaume qu'il annonçait devait permettre une présence, une complémentarité homme-femme qui allait plus loin que ce qui se faisait. Et on sait que ce groupe des femmes sera le dernier carré de fidèles lors de la mort de Jésus. Et puis pour finir le tour d'horizon, il y a aussi des disciples sédentaires qui restent chez eux. Marthe, Marie, Lazare, par exemple, à Béthanie, c'était des disciples de Jésus, mais qui restaient chez eux à la maison. Il existait aussi des disciples en secret, Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui étaient des membres du Sanhédrin, et qui, à un moment donné, ont opté pour Jésus, mais qui ne l'ont pas forcément manifesté en public tout de suite, qui ont gardé ça pour eux, et qui ont su le manifester au moment où Jésus est mort, parce que ce sont eux qui sont allés descendre le corps de Jésus de la croix. Ils sauront prendre position publiquement au bon moment, mais il y a eu un temps où ils étaient disciples en secret. Ça donne juste un petit peu cette vision plus large que les 12 lorsque l'on parle des disciples. Ceci dit, quelques mots sur le cercle des 12. Ce choix des 12 a été quand même l'une des décisions importantes de Jésus. Il a passé une nuit entière avant de faire ce choix, nous dit Luc. Ça montre vraiment l'importance qu'il a accordée à ce choix. Pendant 3 ans, on pourrait dire, pendant presque 3 ans, on pourrait dire pendant 1000 jours et 1000 nuits, Jésus a tout partagé avec ses douze apôtres. Il les a formés à la mission qu'il voulait leur confier, il les a enseignés, il a formé leur caractère. Et il les a préparés comme ça à être vraiment les premières colonnes du mouvement chrétien. Alors quelques mots sur ce groupe des 12. Les premiers disciples, le premier groupe des disciples, donc Pierre, Jean, Jacques et André, ce premier groupe avait déjà été préparé par Jean-Baptiste. C'est l'évangile de Jean qui nous le rapporte. Ils étaient déjà disciples de Jean-Baptiste avant. Et Jésus les a rencontrés de cette façon-là, et c'est ainsi qu'ils ont été présentés à Jésus, et ils ont quitté Jean pour suivre Jésus. Certainement que leur appel s'est fait en plusieurs étapes. Jésus les a associés, puis ils ont continué à faire leur travail de pêcheur, puis Jésus les a de nouveau appelés, un appel en plusieurs étapes, jusqu'au moment où vraiment ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Et nous l'avons lu dimanche dernier dans le texte de Luc 5 que nous méditions. Quelques mots sur ce premier groupe des disciples de Jésus. Ce qu'on peut relever, c'est que pour ce premier groupe, Jésus a choisi des hommes qui étaient unis par des liens forts. Des hommes qui étaient unis par des liens forts. Il y a André et Pierre qui étaient frères. Et Jacques et Jean qui étaient frères. Donc deux fratries. C'est déjà des liens qui les unissaient. Et en plus, ces deux paires de frères étaient associés dans la même entreprise de pêche. Ils travaillaient ensemble, ils étaient de la même ville, ils travaillaient dans la même entreprise de pêche. Donc si vous voulez, c'est des gens qui avaient déjà été bien associés par le travail de pêcheurs. Ils avaient beaucoup partagé dans leur métier. Et d'une certaine manière, Jésus a tablé aussi sur ces liens qui existaient là, à la fois liens familiaux et liens de travail. Et je crois que ça nous rappelle qu'il ne faut surtout jamais opposer ce qui est spirituel et ce qui est humain. Les liens que l'on tisse dans toutes sortes d'activités peuvent avoir aussi leur utilité pour le service du Seigneur. Et ce qui compte, c'est les liens qui se font, la qualité des relations et d'apprendre à bien se connaître, avoir confiance, etc. Et je crois qu'il est utile aussi pour nous de nous rappeler de cela. Dans l'Église, nous sommes appelés à servir Dieu ensemble, oui, mais à cultiver des liens qui se diversifient, qui prennent différentes formes. Ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à vraiment être bien unis de personne à personne. Et il est utile que nous cultivons des formes différentes de liens dans l'Église. Et c'est ce qui apparaît ici avec ce premier groupe de quatre que Jésus a choisi. Jésus n'hésite pas non plus à miser sur des liens familiaux. Et vous avez vu qu'il appelle deux fratries, Pierre et André, Jacques et Jean. Et plus encore, Jésus a choisi certains dans sa propre famille à lui. Car il semble bien que Jacques et Jean étaient en fait des cousins de Jésus. Il semble bien que Jacques et Jean étaient en fait des cousins de Jésus. Leur mère s'appelait Salomé. Et Salomé était la sœur de Marie, mère de Jésus. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez découvrir si vous lisez, si vous comparez les trois descriptions dans les trois évangiles, dans Marc, Matthieu et Jean, des femmes qui se trouvent au pied de la croix. À côté de Marie, nous dit Marc, à côté de Marie, mère de Jésus, il y a Salomé. Alors, c'est son nom. Matthieu nous dit, Salomé qui, nous dit, se trouve une personne qui est aussi appelée la mère des... cette même personne, pardon, est appelée la mère des fils de Zébédée. Donc, à côté de Marie, nous dit Matthieu, il y a la mère des fils de Zébédée. Donc Salomé, c'est le nom de la mère de Jacques et de Jean. Et Jean nous dit, à côté de Marie était la sœur de la mère de Jésus. Salomé était la sœur de Marie. Comparer ces trois, ça permet de dire que finalement, Jacques et Jean étaient certainement des cousins de Jésus. Et Jésus n'hésite pas à aussi choisir des gens qui sont de sa famille de cette façon-là. Il nous arrive à nous de redouter parfois, de confier dans l'Église des responsabilités à des gens d'une même famille. On a peur qu'éventuellement ça fasse un peu clan, des choses comme ça, vous voyez. Jésus n'a pas eu cette prévention. Hein? Et je crois qu'il faut se rappeler aussi que les liens familiaux peuvent être une vraie richesse à bien des égards, aussi dans la famille. Hein? Il s'agit bien sûr de mettre tout cela loyalement au service de l'Évangile, mais cela peut être une vraie source de bénédiction. Donc juste, on peut noter cette chose-là par rapport à ce premier groupe des disciples, les quatre qui sont les premiers mentionnés. Jésus a choisi donc des gens qui étaient bien unis entre eux dans un premier temps, pour le premier cercle, mais Jésus n'a pas eu peur non plus de la diversité au sein de son groupe. Et il a choisi des hommes qui avaient du tempérament. Par exemple, Jacques et Jean étaient appelés fils du tonnerre. Hein, donc, ça dit un petit peu quelque chose sur leur tempérament. Il a aussi intégré des hommes que tout opposait. Il a intégré dans son équipe Matthieu, qui avait été collecteur d'impôts. qui avait collaboré avec le Hérode et les Romains éventuellement pour recevoir les impôts. Et on sait que ces gens-là n'étaient pas du tout en odeur de sainteté auprès du peuple et des classes moyennes. Et Matthieu avait été peut-être le collecteur d'impôts qui avait un petit peu racté Pierre et Jean et tous ces gens-là dans l'exercice de leur fonction. C'était pas évident, je pense, pour les autres disciples d'intégrer quelqu'un comme Matthieu, qui pourtant avait reçu la grâce de Dieu par rapport à tout ce qu'avait été sa vie avant. Jésus aussi a pris des hommes aux positions très marquées, hein. Il y avait Simon le zélé, le zélote, alors soit zélé pour Dieu ou peut-être zélé aussi d'un point de vue nationaliste. Il y avait aussi dans l'équipe des gens qui étaient prêts à toujours avancer, des impulsifs comme Pierre. Il y avait des temporisateurs comme Nathanaël qui attendent de voir d'abord. Il y avait des méditatifs comme Jean, des pessimistes comme Thomas. Des gens qui se mettent naturellement au premier rang comme Pierre qui est toujours prêt à foncer. Des hommes qui acceptent d'être des bons seconds, comme André, le frère de Pierre. C'est assez étonnant de voir quelqu'un comme André. Hein. C'est lui qui a amené Pierre à Jésus. Il était dans le tout premier cercle des disciples, parce qu'il était certainement avec Jean, auprès de Jean-Baptiste. Et ensuite, il prend une position quand même bien plus distanciée. Il sait être un bon second. Donc dans cette diversité, Jésus a voulu que ce petit groupe forme une sorte de concentré du peuple de Dieu dans sa diversité, et pourtant unis par son appel, par la grâce reçue de lui, et pour la mission qu'ils ont à accomplir. Et donc, il appelle ce cercle à vivre vraiment une communion assez forte. Et le cercle des disciples de Jésus a vécu des liens beaucoup plus forts que ce que vivaient les disciples des rabbis, qui étaient là juste pour être ensemble sur les bancs de l'école, mais pas pour partager le reste. Jésus a voulu vraiment une communion bien plus forte, et il annonce là aussi ce que nous sommes appelés à vivre dans l'Église. On peut noter aussi que ce groupe des 12 semble avoir été un groupe qui a été, d'une certaine manière, un peu structuré. On sait que Jésus a entretenu une relation particulière avec Pierre, Jean et Jacques, les disciples de la première heure. André, le quatrième, comme j'ai dit, joue un petit peu par rapport aux trois autres, les seconds rôles, malgré le fait qu'il avait conduit Pierre à Jésus. Mais il semble qu'il y avait une sorte d'autre structuration dans le groupe. Jésus n'a pas hésité à être plus proche de ce cercle-là des premiers disciples. Mais quand on compare en fait les quatre listes qui sont données dans les évangiles, il y a une liste dans chaque évangile et une liste aussi dans le livre des Actes. On constate quand on regarde ces quatre listes, le fait suivant. Les noms ne sont pas toujours donnés dans le même ordre. Hein, ça peut changer l'ordre dans lequel on donne les noms. Mais pourtant, ils sont toujours regroupés dans les listes dans un schéma 1 plus 3. Un nom, le même dans toutes les listes, suivi par trois noms dont l'ordre peut différencier selon les listes. Et il y a comme ça donc trois noms qui sont toujours au même endroit dans les listes, et la suite des listes peut un petit peu varier. Qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère qu'il y avait en quelque sorte trois groupes avec chacun son chef de file. Et c'est pour ça qu'on cite d'abord le chef de file et on le met au premier, et puis ensuite les autres, on peut les citer dans un ordre qui est un peu différent parce qu'on cite le reste de l'équipe. Alors, ce qui veut dire qu'il y avait le groupe de Pierre, avec Jacques, Jean et André. Ensuite, le groupe de Philippe, avec Barthélemy, Thomas et Matthieu. Et puis, le groupe de Jacques, fils d'Alphée, avec Simon le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote. Donc, une certaine structuration dans le groupe. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a peut-être Jésus a voulu aussi que les choses se passent un peu comme ça pour pouvoir plus facilement diversifier les choses. Ça rappelle que structurer fait partie des choses qui peuvent être utiles par moment. Peut-être aussi qu'il y a des affinités qui sont faites assez rapidement avec des gens qui étaient des leaders. Et Jésus a voulu aussi respecter le tempérament de gens qui pouvaient un peu entraîner les autres. Mais voilà un peu ce que l'on peut dire de cette idée de structuration dans le groupe des disciples. Le groupe des disciples manifeste aussi la fragilité. Parmi ces 12, il y a aussi, il faut le rappeler, et le soulignait Judas, celui qui allait trahir Jésus. Son nom, Iscariote, indique probablement sa ville d'origine. Il était certainement de Kériote, Iscariote, de la ville de Kériote. Et il y avait une ville qui s'appelle Kériote qui était au sud de la Judée. Il avait certainement de vraies qualifications, c'est pour ça qu'on l'a nommé trésorier. C'est certainement parce qu'il était un homme capable, intelligent, organisateur, etc. Mais c'est vrai qu'on présente souvent Judas un petit peu à part quand on parle des disciples. C'est bien sûr dû au fait qu'il trahira Jésus, ce fait terrible. Mais on peut remarquer une autre différence, c'est qu'en fait Judas était le seul judéen, la Judée, la province du sud, autour de Jérusalem, etc. Il était le seul judéen au milieu des Galiléens. Et il est possible qu'il y ait là une sorte de petite distance qui se soit marquée. En tout cas, Judas reste comme un mystère, comme une blessure. Comment quelqu'un qui faisait partie du cercle de Jésus a-t-il pu trahir Jésus? Certainement qu'au départ, Judas a sincèrement adhéré à la cause de Jésus. Et on a le sentiment qu'ensuite, il y a une sorte de distanciation progressive. Judas prend un petit peu de distance. Peut-être que c'est qu'il a commencé à sentir un petit peu, à manifester un peu de mépris. Vous savez, les Judéens, ils regardaient les Galiléens un petit peu de haut. Les Galiléens, c'était un peu des paysans. Alors que nous, les Judéens, on était les mieux, quoi. Donc peut-être que Judas a eu un peu ce sentiment, une certaine distance. Peut-être qu'il y avait aussi toute la cohésion du groupe galiléen qui n'était pas facile à vivre pour lui. Donc une petite distance. Et puis des distances intérieures qui se multiplient, peut-être aussi par rapport à Jésus. Et puis à un moment donné, il y a des actes qui commencent à créer de la distance. Et Jean nous dit qu'il prenait de l'argent dans la caisse qu'il gérait. Et là, quand on pose des actes qui posent des distances, ça crée encore plus la distance intérieure, etc. Et c'est ça qui, petit à petit, a conduit Judas à la trahison. Alors Judas gêne quand on pense au cercle des disciples. Mais en même temps, sa présence dans le cercle des disciples, elle nous parle de notre fragilité à nous. Elle nous interroge, elle nous met en garde. Et je crois que Judas est aussi un avertissement pour nous, une question. Attention à ces distanciations qu'on prend par rapport à l'Évangile, par rapport au Seigneur. Elles peuvent nous conduire à ce que nous n'aurions jamais imaginé faire, finalement. Et face à l'exemple de Judas, nous sommes appelés à développer une dépendance par rapport à Jésus, un attachement à lui et un retour au Seigneur à chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien, plutôt que de rester à distance et à chercher aussi à avoir une action et une conduite claire à l'égard du Seigneur en évitant la duplicité, le double jeu. C'est tout cela qui a perdu Judas finalement. Quelques mots maintenant pour terminer sur la formation des disciples. Jésus a consacré du temps, de l'énergie à former les 12 et il a vraiment fait beaucoup pour eux. Comment est-ce qu'on peut caractériser cette formation? D'abord, son but est de former des personnes. Il a voulu former des personnes, les faire grandir, les amener plus loin. Il les forme à certaines tâches, il les envoie à mission par exemple, mais l'essentiel c'est ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent expérimenter avec Jésus, ce qu'ils peuvent intégrer, ce qu'ils peuvent comprendre. Dans cette formation des personnes, Jésus prend ses disciples tels qu'ils sont. C'est à partir de ce qu'ils sont qu'il veut les conduire plus loin. Et ça, c'est quelque chose de très très beau quand on regarde les quelques personnages que l'on connaît. C'est ce qu'on voit avec Pierre en particulier. Quand il rencontre Pierre, qui s'appelait Simon à ce moment-là, il le regarde. Il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, désormais tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Jésus regarde Simon, il est prêt à partir de ce qu'il est, mais il veut que ce Simon puisse devenir Pierre, un roc sur lequel on pourra bâtir du solide. Ce n'est pas du tout ce que Simon est à ce moment-là, mais il va le conduire à cela. Et c'est assez remarquable de voir la façon dont Jésus saura utiliser vraiment ce qu'est Pierre. Son initiative, ses réactions immédiates. Jésus vraiment travaille avec ça. Pierre peut faire des merveilles quand il dit « Tu es le Christ, le Fils des dieux vivants ». Il peut avoir des initiatives magnifiques aussi. Jésus vient vers eux sur l'eau. Pierre est prêt à partir, à marcher sur l'eau. Et Jésus se sert de cela. En même temps, parfois, ces initiatives révèlent les limites, le manque de foi, Pierre qui manque de tomber dans l'eau, le refus d'accepter que Jésus puisse mourir. Et autant Pierre a confessé Jésus, autant ensuite Jésus doit le reprendre. Jésus sait vraiment faire avec cela chez Pierre. Il l'accompagne et il le fait vraiment grandir à partir de ce qu'il est. Et je crois que vraiment, Pierre représente l'exemple de la formation de disciples dans ce qu'elle a de meilleur. Jésus veut tirer le meilleur de chacun de nous. Il part de ce que nous sommes et on n'est pas pareil et c'est bien. Et avec ce que nous sommes, il veut tirer le meilleur de nous. Parfois, il faut nous reprendre, dire c'est pas bien, on repart, on fait autrement, etc. Mais vraiment, formation de personne. Jésus crée aussi, deuxièmement, dans le cercle de ses disciples, un climat de liberté et d'autorité. Jésus crée un climat de liberté. Les disciples peuvent parler à Jésus avec une grande liberté. « Non, Seigneur, dit Pierre. » Quand Jésus dit « Vous savez où je vais ?» Thomas dit « Non, nous ne savons pas où tu vas, etc. » On voit qu'il y a un dialogue qui est assez libre entre Jésus et ses disciples. Et Jésus lui-même s'exprime parmi eux avec une belle liberté. Et je crois que c'est bien de voir cela, ça rappelle que les relations au sein du peuple de Dieu peuvent avoir ce climat de liberté. Mais en même temps, cette liberté n'amène jamais la confusion des rôles. Jésus reste le maître. Quand les disciples s'adressent à lui, ils l'appellent souvent maître. Jésus agit comme maître, il marche devant, il conduit ses disciples, il s'affirme comme maître. Et même lorsqu'il lave les pieds de ses disciples et qu'il casse ce schéma, c'est en tant que maître qu'il fait cela. C'est pas pour dire maintenant il n'y a plus aucune différence entre qui que ce soit, il n'y a plus aucune autorité. Jésus est le maître, mais il accepte de se mettre au service. Et il donne le sens de la véritable autorité, se mettre au service. Il montre jusqu'où il faut être prêt à agir, même lorsque l'on a autorité. Mais il y a ce climat de liberté avec en même temps ce respect des rôles. Et ça donne, me semble-t-il, une image assez saine de ce que doit être l'Église aussi, liberté de relation et respect des rôles dans un esprit de service mutuel. La formation que Jésus donne, et je termine par là, est une formation large. Jésus confie à ses disciples des tâches pratiques qu'il faut accomplir, acheter des provisions, faire asseoir les gens, préparer une chambre pour un repas. Et donc Jésus donne ces tâches, oui, à ses disciples, des tâches pratiques. Parmi ces tâches pratiques que Jésus délègue à ses disciples, on peut noter le fait que Jésus demande à ses disciples de baptiser au tout début de son ministère. Au tout début de son ministère, il est dans la continuité de Jean, du ministère de Jean, il s'inscrit dans cette continuité et c'est l'évangile de Jean qui nous dit Jésus baptisait. En fait, ce n'est pas Jésus qui baptisait, mais ses disciples. De cette manière, Jésus a voulu éviter que des gens puissent s'emparer du fait que ce soit lui qui les a baptisés pour dire « Ah, moi j'ai reçu un baptême spécial ». Et donc, il demande à ses disciples de baptiser. Et je trouve que c'est assez intéressant par rapport à cela, l'utilité donc de certaines délégations pour éviter la fixation sur une personne. Ça arrive aussi aujourd'hui parfois que des gens accordent beaucoup plus d'importance de savoir qui l'a baptisé, qui m'a baptisé, plutôt que de dire quel était le sens de mon baptême. Ce qui compte, c'est le sens de mon baptême, ce n'est pas la personne qui m'a baptisé. Juste une petite parenthèse ici. Jésus aussi, donc, donne des tâches pratiques. Jésus aussi met ses disciples en situation. Quand il y a des choses à faire, il leur dit « Allez-y, faites ». Quand la foule est là, il faut leur donner à manger. Jésus leur dit « Donnez-leur à manger ». Il sait très bien qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais en même temps, il les met devant cette exigence pour qu'ils sentent aussi l'exigence. Il leur demande aussi certainement cela parce que les disciples avaient dû accepter d'accueillir la foule alors qu'ils voulaient avoir du temps avec Jésus. Ils étaient partis pour se reposer, la foule vient et Jésus leur a demandé de faire un pas de plus et il leur demande d'aller jusqu'au bout. Donc il les met en situation pour leur faire comprendre la difficulté, pour leur faire comprendre aussi les ressources qui étaient les siennes. Jésus aussi accepte qu'ils prennent des initiatives, qu'ils aient des tentatives, qu'ils soient formatrices. Lorsque Pierre marche sur l'eau, propose de marcher sur l'eau à sa rencontre, Jésus accepte que ça puisse se faire. Et donc, il accepte aussi qu'à certains moments, les disciples puissent tenter des choses sans forcément être capables de tout. Et il est prêt à leur prendre la main si vraiment ils ont besoin d'être secourus. Donc vraiment, Jésus sait mettre les gens en situation, accepter qu'ils puissent tenter des choses, les accompagner, et c'est vraiment quelque chose d'assez remarquable. D'autres situations aussi, Jésus demande à ses disciples d'accepter les ouvertures qu'il fait. Quand il accepte des gens que tout le monde refuse à sa table, ben, les disciples ils doivent aussi apprendre ces choses-là. Jésus aussi a envoyé en mission ses disciples et il les a associés à l'annonce du règne de Dieu. Donc à la fois il voulait les former à cela, mais en leur donnant aussi le pouvoir de faire des miracles. Et lorsque Jésus a envoyé ses disciples en mission, les 12 et les 72, quand ils sont revenus, ils étaient ébahis de tout ce qu'ils avaient pu faire. Jésus leur a permis de faire des miracles, de chasser des démons, etc. Et Jésus se réjouit avec eux d'une certaine façon de ce qu'ils ont fait, en leur disant, attention, ne vous laissez pas griser, l'important, ce n'est pas d'abord le pouvoir que vous avez, c'est que votre nom soit inscrit dans le royaume de Dieu. Jésus a pris du temps d'enseigner aussi ses disciples, il a voulu qu'ils soient formés, il a pris beaucoup de moments pour leur apprendre, leur parler systématiquement, personnellement. Il voulait vraiment les nourrir, déposer en eux beaucoup de choses qui puissent les aider ensuite. Et à la fin de sa vie, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais il avait pris le temps déjà de l'en dire pas mal. Et donc, je crois qu'il est important aussi pour nous de rappeler cette valeur de l'enseignement. Mais en même temps, la marque décisive, c'est que ses disciples aient été avec Jésus. C'est d'abord la vie avec Jésus. Il a voulu les marquer personnellement par sa relation à eux, par son exemple, par sa manière d'être, par ses réactions, son enseignement, sa sensibilité. Et le but de Jésus, c'est vraiment que tout disciple puisse être bien formé, que tout disciple qui est bien formé puisse devenir comme son maître. Et je crois que nous avons là la clé. Jésus veut qu'en tant que disciple, nous puissions vraiment être proches de lui, être à son écoute, vivre des choses avec lui, nous engager avec lui. Et même s'il n'est plus là, nous pouvons faire cela d'une certaine façon, spirituellement parlant. Mais il veut aussi qu'en tant que disciples bien formés, nous devenions comme notre maître. Comme notre maître et unis à lui. Parce que nous dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est encore dans ce sens que nous sommes appelés à être nous aussi des disciples. Comme le dit Luc dans le livre des Actes, nous les chrétiens, nous sommes disciples. Nous ne pouvons plus suivre Jésus physiquement en marchant sur les mêmes routes où il marche, mais nous pouvons vivre une communion avec le Seigneur, nous pouvons entrer dans ce qu'il nous demande, dans son œuvre aussi. Nous pouvons avoir cette communion avec le Christ vivant, ressuscité par l'action de son Esprit. Et le but vraiment, c'est que Christ aussi soit formé en nous. Je termine par une dernière citation qui est un petit peu peut-être l'objectif qu'on pourrait se donner pour nous. Lorsque nous étions lus dans le livre des Actes, les chefs religieux ont vu Pierre et Jean, leur assurance. Il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. J'aimerais que ce soit peut-être quelque chose qui puisse rester aussi pour nous, qu'on nous reconnaisse comme des gens qui sont avec Jésus, qui sont à son école, qui le connaissent, qui vivent dans sa communion, dans son service. Voilà ce que nous pouvons aussi garder pour nous dans cet appel à être nous aussi de ceux qui marchent avec le Seigneur dans sa mission, dans son œuvre. Voilà ce que je voulais essayer de dire par rapport à ce thème des disciples. Désolé pour le petit dépassement une fois de plus.